Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager?
Prof, etc.
Nicolas Gobbe est né à Senon, en Gironde. Lorsqu'il avait 6 ans, il ne se préoccupait pas de ce qu'il désirait devenir plus tard, même si le commandant Cousteau attisait déjà sa curiosité. Nicolas a suivi un parcours classique, l'université, les concours, puis un début de carrière comme TZR, c'est-à-dire en effectuant des missions de remplacement, dont il dit qu'elles lui ont permis de faire ses armes. Plus tard, il a obtenu son premier poste fixe, où il est finalement resté. C'est à partir de ce moment que Nicolas a appris à aimer son métier tout en découvrant d'autres pédagogies, d'autres méthodes, en s'améliorant d'année en année. Aujourd'hui, Nicolas vit à Béziers et enseigne les sciences de la vie et de la terre à Agde. Son côté etc. tient en trois mots. Découvrir, apprendre et partager. Et c'est cette trilogie qui l'ont poussé à créer sa chaîne YouTube, Un prof heureux, où il partage des tutoriels, des réflexions sur le métier de prof, des conseils ou encore des lectures professionnelles. Vous l'avez compris, aujourd'hui je suis en compagnie d'un prof curieux, enthousiaste, mais surtout, je reçois un prof heureux. Nicolas Gobbe, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la dernière chose qui vous a rendu encore plus heureux que d'habitude?
Oh mon Dieu. Ah, c'est compliqué comme question, pour une première question. Plus heureux que d'habitude, difficile à dire. Du point de vue professionnel, ce sera les derniers aménagements que j'ai fait au sein de ma classe et les projets dans lesquels je vais m'engager pour l'année prochaine. Voilà, ce sont, disons que c'est tout ce qui est nouveau, qui va me permettre de découvrir de nouvelles choses. C'est vraiment le genre de choses qui me rendent heureux.
Quel regard portez-vous sur votre enfance, Nicolas ?
J'ai une enfance banale, on va dire, heureuse, voilà. J'étais le genre d'élève tout à fait transparent, en fait. Quand on regarde mes bulletins de l'époque, on voit souvent écrit « élève discret ». Et parce que je travaillais dans mon coin, je faisais pas parler de moi, et c'est quelque chose qui est resté en fait tout au long de ma scolarité, et même plus que ça, puisque en tant que prof, quand on avait encore des appréciations des principaux, j'avais professeur discret qui revenait régulièrement d'année en année. Et petit à petit, les choses ont changé et ce genre d'appréciation a disparu.
Je rectifie, je pense que vous vouliez dire élève discret. Alors, en tant qu'élève, quel est votre meilleur souvenir?
C'est compliqué de dire, est-ce qu'il y aurait un truc... Alors, typiquement, c'est vraiment le genre de question où quand il faut choisir un truc qui serait mieux que les autres, j'ai beaucoup de mal à choisir d'une façon générale. Mais en tant qu'élève...
Ça peut être une période aussi.
Ouais. Je crois que c'est peut-être l'entrée en sixième. Avec la découverte de nouvelles matières et de nouvelles choses par rapport à l'école primaire, une autre organisation et donc la possibilité de rencontrer des gens différents et des matières différentes et de pouvoir apprendre plein d'autres choses. Je sais qu'en sixième, c'était le cours d'anglais notamment qui m'enthousiasmait le plus. Rien que le fait d'apprendre une nouvelle langue, le cours, c'est même pas la professeure qui faisait cours, en fait, c'est vraiment rien que le fait que d'apprendre cette nouvelle langue, c'était vraiment quelque chose de très enthousiasmant pour moi, indépendamment du professeur, en fait.
Ça résonne pas mal en moi parce que c'est exactement le sentiment que j'ai. Je me rappelle de mes cours d'anglais, c'était vraiment une découverte. En plus, j'ai eu la chance d'avoir un prof d'anglais que je n'ai jamais entendu parler le français. Je l'ai eu deux ans de suite, de la sixième à la quatrième. Et à l'époque, on n'avait pas de cours de langue vivante à l'école élémentaire. Donc c'était tout à fait nouveau et ce monsieur, il s'appelait Monsieur Lejar. S'il nous écoute, je vais faire comme Michel Drucker. Monsieur Lejar, je vous salue. Mais en tout cas.
Alors tu me permettras de saluer donc Mademoiselle Rénal, qui était encore une mademoiselle à l'époque. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue depuis, mais voilà.
Ouais, comme quoi il y a toujours des profs qui nous ont marqués comme ça.
Oui, c'est à l'évidence.
Alors plus tard, vous avez été quel genre d'adolescent?
Ça a toujours été un trait marquant, cette discrétion, le fait de pas vouloir sortir du lot, indépendamment des résultats scolaires, parce que j'avais un petit peu cette envie d'être meilleur de ce point de vue-là, mais vraiment une adolescence, où je ne faisais pas de bruit, je faisais pas parler de moi, j'ai fait aucune crise d'adolescence en particulier. Voilà, toujours sous les radars, tout le temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi paradoxal que ça puisse paraître quand on met sa tête sur YouTube, c'est quelque chose qui reste encore. Voilà, c'est vraiment être toujours discret, pas faire parler de soi, avoir des amis très proches, et voilà, c'était quelque chose d'important aussi. Mais voilà, pas les gens populaires, toujours être un peu à part dans son coin avec les outsiders. Comme on dit.
Prof, etc.
En quoi cette période a influencé le choix du métier de professeur que vous exercez aujourd'hui?
C'est maintenant que je regarde dessus avec un peu plus de recul, le choix du... J'ai, en sixième, je voulais être prof d'anglais. Voilà, j'ai eu un coup de cœur pour l'anglais, je voulais être prof d'anglais. Un peu plus tard, j'ai donné des cours. J'étais encore au collège et au lycée. J'ai donné des cours pour aider des élèves en difficulté, soit chez moi, soit en faisant du tutorat, ce qui existait déjà à l'époque au collège. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a finalement suivi tout au long de ma vie. Même si j'ai fait 2 ans de médecine, la première année du concours de médecine, j'ai finalement, dans le prolongement, je suis allé faire des études de sciences. Mais dès les premiers mois où il fallait choisir entre prof et une voie de recherche, tout de suite, je me suis orienté vers le professorat. Et quand j'y repense, c'est quelque chose que j'ai retrouvé finalement tout au long de ma vie.
Comment avez-vous été amené à venir aux outils numériques pour les intégrer à vos pratiques pédagogiques?
Je crois que c'est venu très, très, très naturellement, puisque je suis tombé dedans quand j'étais petit, en quelque sorte. Mon père a ramené des ordinateurs à la maison assez vite. Pour ceux qui connaissent, j'ai eu l'Amstrad CPC 6128. C'était quelque chose d'assez fascinant pour moi en soi. Donc, j'ai appris la programmation là-dessus, enfin le basique. Et c'était l'idée de pouvoir créer quelque chose avec les outils numériques, c'est quelque chose qui m'a tout de suite interpellé, fasciné, intéressé. Et c'est donc dans cette continuité-là que j'ai fait la même chose pour mon métier de prof. C'est venu tout à fait naturellement. L'utilisation de ces outils est devenue indispensable et naturelle, dans le sens où c'était pas exceptionnel pour moi d'utiliser le numérique. Ne restait pas quelque chose d'exceptionnel, mais ça fait partie des pratiques de classe courantes, en fait.
Créer une chaîne YouTube nécessite toute une série de compétences, qu'elles soient techniques, narratives ou encore de réalisation. Comment avez-vous fait pour parvenir à rassembler ces compétences et vous lancer dans ce projet?
C'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement et c'est de la pratique. Alors, pour l'histoire, j'ai commencé en fait par avoir une chaîne YouTube littéraire où je faisais des critiques de livres. Elle est toujours active, mais je m'en occupe plus maintenant. Et donc, c'est là que j'ai fait mes premières armes. Au début, je ne voulais pas me mettre face à la caméra. Donc, j'ai créé un avatar qui s'animait en fonction de ce que je disais. Voilà. Donc là, j'ai appris l'aspect montage. Voilà, j'ai apprivoisé tout ce qui est, tous les logiciels de montage, etc. Ensuite, j'ai créé une chaîne pour les profs en anglais. C'était une façon de me protéger encore. C'est une étape supérieure où j'ai montré ma tête, mais étant dans une langue étrangère, je savais qu'il n'y aurait personne en France qui regarderait ça, quoi. Donc, bah, ça m'a permis de me libérer. Donc là, j'ai juste pris un iPhone et je me suis filmé comme ça, voilà, tout simplement, sans micro, sans rien, sans éclairage, brut. Donc là, j'ai davantage travaillé mon anglais et le montage vidéo, du coup. Et petit à petit, voilà, je me suis équipé en prenant une caméra un peu plus sophistiquée, des éclairages. Et j'ai donc lancé la chaîne en français. Donc vraiment, ça s'est fait étape par étape, et c'est plus sur plusieurs années, en fait, hein, sur au moins 3 ans avant que je lance la chaîne Un prof heureux en français. Et adieu l'anonymat, quoi, en quelque sorte.
Ouais, c'est un parcours assez atypique. C'est vrai.
Prof, etc.
Alors, une fois qu'une idée a germé dans votre esprit, quelles sont les étapes de la création de la vidéo et combien de temps y consacrez-vous à peu près ?
Alors, ça dépend des idées, ça dépend bien sûr des vidéos, si je suis plus à l'aise avec le sujet. Voilà, mais enfin, typiquement, donc j'ai un sujet de vidéo. Ce que je vais faire, c'est faire des recherches en regardant différentes sources pour avoir des informations, notamment ce qui se dit dans la recherche également, pour éviter de dire n'importe quoi. Voilà, parce que je pense que mon expérience personnelle au sens strict, même si c'est pas dénué d'intérêt, je pense que c'est encore plus intéressant s'il y a un fond réel derrière tout ça. Donc il y a une grosse étape de recherche. Ensuite, j'écris le script quand c'est un sujet que je ne maîtrise pas complètement. Et donc après, je face caméra et j'ai le script sous la main et donc je tourne la vidéo et après il y a le montage, etc. Le montage, l'habillage et tout ce qu'on peut rajouter sur une vidéo. Et donc l'ensemble du processus, ça peut être au minimum une semaine, dans le sens où je vais commencer les recherches en début de semaine, tourner au milieu de la semaine et faire le montage en fin de semaine. Et le montage en lui-même, ça peut être généralement c'est 4 à 5 heures. L'écriture en elle-même, ça va être au minimum 1 heure, et puis les recherches, ce sont généralement des recherches que je fais au long cours, en fait. Donc ce sont des choses que j'ai déjà lues, ou voilà, donc j'ai besoin juste de relire ce genre de choses. Il n'y a pas de règle, mais enfin, pour faire une vidéo qui dure 10 minutes, je pense qu'une moyenne de 12 heures de travail, je crois que c'est pas sous-estimer le truc, en fait. Ça paraît, maintenant que je le dis là comme ça, ça me paraît énorme, mais c'est vrai que je pense que ça doit représenter quelque chose.
Ouais, c'est pour ça que je posais cette question, parce que c'est vrai que les vidéos sont toujours courtes, très intenses, très denses, on apprend beaucoup de choses, et on se rend pas toujours compte du travail qu'il y a derrière, et je m'interrogeais sur ce point-là. Avec la crise sanitaire, de nombreux profs se sont lancés en proposant des capsules vidéo pour leurs élèves qui étaient restés à distance des établissements. Votre projet, lui, est un peu différent, même s'il concerne parfois les élèves. Il est plutôt destiné aux profs et vous les avez accompagnés pendant cette période difficile des divers confinements. De quelle manière avez-vous choisi les thématiques de ces vidéos pendant ces périodes ?
Oui, alors ça a été un petit peu, comment dirais-je ? Disons que la chaîne YouTube était au repos avant le premier confinement, le tout premier. Elle était un petit peu au repos, je publiais plus trop dessus, etc. Et c'est en fait en voyant sur les forums ou sur Twitter des questions qui revenaient encore et encore, je me suis dit bon, là on va peut-être faire une vidéo là-dessus, parce que notamment sur la classe virtuelle du CNED. Je me suis dit bon, il y a plein de choses qu'on apprend entre nous là, mais il y a des gens qui sont pas au courant, qui peinent, qui n'y arrivent pas. Je me suis dit bon, ben là on va faire une vidéo sur la classe virtuelle du CNED, et c'est cette vidéo là qui a pris d'un seul coup. On a dépassé les 130 000 vues, ce qui m'était jamais arrivé de ma vie. Ça a été un grand boom. Et là je me suis dit waouh, il y a vraiment quelque chose à faire. S'il y a autant de vues, c'est qu'il y a les profs qui sont en difficulté, qui ne savent pas comment utiliser la classe virtuelle du CNED. Et donc voilà. Donc je me suis dit, ben on va dérouler le fil. Donc j'ai fait une première vidéo, j'en ai fait quatre, trois ou quatre après. Voilà, toujours pour répondre aux soucis des collègues et pour aussi apporter peut-être une touche d'originalité. Comment faire une classe virtuelle de manière un peu plus originale, un peu plus dynamique et en impliquant davantage les élèves. Donc voilà, j'ai essayé de partager mon savoir-faire sur le sujet. Et évidemment, comme on était à distance, faire des tutos sur les outils numériques paraissait comme une évidence puisque c'était le seul moyen de communication quasiment à l'époque, quoi. Donc voilà. Et c'est vrai que ça a relancé la chaîne YouTube, mon intérêt pour cette chaîne-là. Et depuis, bon, mais ça ne s'arrête pas. Depuis, j'ai continué en essayant de diversifier les sujets, en partageant des lectures de bouquins de pédagogie, en retournant dans ma classe filmer sur le terrain pour partager mon quotidien au sein de la classe aussi. Voilà.
Alors justement, oui, pardon.
Non, vas-y.
Bon. Je disais simplement qu'une partie de vos vidéos traite de recherche en pédagogie. Et dans l'une d'elles, vous parlez de la coniclasse pour calmer les esprits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept ?
Oui, donc les coniclasses ont été créées par Jean-Luc Berthier. Et donc l'idée, c'est de mettre les sciences cognitives au service de l'éducation, tout simplement, en utilisant notamment toutes les connaissances nouvelles sur le cerveau. Voilà, et donc comment est-ce que ces connaissances-là peuvent-elles être mises à profit pour la réussite des élèves? Voilà. Et une des choses qui est proposée au sein des coniclasses, c'est la mise au calme des esprits, du coup. Et cela consiste en début de cours, à la demande ou de manière ritualisée. Donc, cela consiste à calmer les élèves en faisant des petits exercices de respiration. Et en suivant donc différentes
techniques.
Différentes étapes et différentes techniques en centrant son attention sur différentes parties du corps pour aider à les décontracter et toujours en contrôlant son souffle de manière régulière. C'est quelque chose qui est très court, qui va durer pas plus entre 3 et 5 minutes. Et tout en prenant avec soi les élèves qui sont volontaires pour le faire et ceux qui ne veulent pas, ben, libre à eux, mais la seule consigne, c'est qu'ils ne doivent pas déranger les autres.
On est un peu dans le domaine de la sophrologie là ou pas ?
Pas en ce qui me concerne. Pour moi, je reste strictement sur des exercices respiratoires. Voilà.
D'accord.
Prof, etc.
La manière dont sont écrites vos vidéos montre que vos conseils, vos tutoriels reposent sur du concret. Vous présentez des outils ou des démarches que vous avez vous-même expérimentées et vous n'hésitez pas d'ailleurs à nous montrer vos erreurs, vos maladresses en les analysant. J'ai l'impression que le résultat, c'est que chacun d'entre nous peut s'identifier et finalement essayer d'y aller sans appréhension. Est-ce qu'il n'y a pas là une des clés du succès de votre chaîne ?
Ouais, c'est toujours un peu étrange de revenir sur son propre travail comme ça. Disons que le succès est toujours relatif de toute façon, mais j'espère en tout cas, disons que c'est... Je ne veux pas, absolument pas avoir le rôle de modèle de toute façon. Donc l'idée, c'est de montrer... les choses aussi proches de la réalité. Voilà, et donc effectivement, je crois qu'il y a aussi une certaine angoisse de la performance de la part des profs. Il suffit de voir lorsque leur inspecteur vient, il faut qu'ils réussissent ce cours-là, sinon leur carrière est foutue, ou du moins c'est le sentiment qu'ils ont. Donc voilà, l'idée c'est de dédramatiser aussi, de dire qu'on échoue tous, quoi, de toute façon. Et qu'on apprend à chaque fois et que même après donc 19 ans d'ancienneté en ce qui me concerne, on peut toujours apprendre, toujours se planter, évidemment, pour mieux rebondir et progresser. Et effectivement, cette manière de dédramatiser les choses, j'espère, encourage les collègues qui regardent mes vidéos à se lancer, du coup. Parce que c'est pas grave en soi. Il n'y a rien de grave. On est tous de bons profs. Et on fait au mieux en fonction des circonstances, en fonction de la classe et en fonction de comment on se sent nous-mêmes. voilà, on fait au mieux. Donc, on ne risque rien à essayer de nouvelles choses, si ce n'est la réussite, quoi.
Est-ce que cette activité de YouTuber a des conséquences sur votre popularité auprès des élèves? Est-ce que vous leur avez déjà demandé ce qu'ils en pensent?
Non. Non, je ne leur ai pas demandé ce qu'ils en pensent.
Vous avez des retours de
oui,
leur
oui,
part?
oui, oui. Ouais, alors, je ne pense pas que c'est un effet sur ma popularité au sens strict. Vraiment, si mes cours étaient bâclés, si je faisais pas mon travail sérieusement, je crois que ce serait au contraire une excuse pour ajouter, enfin voilà, pour. Mais sinon, en marchant dans la cour des élèves que je n'ai pas, j'ai un élève qui m'a dit un jour: bonjour, prof heureux. Ah, ben, bonjour, voilà. Ou soit j'ai regardé votre vidéo, monsieur, c'était trop bien. Voilà, donc c'est le genre de retour que j'ai. Des retours très positifs tout le temps, et ça faisait partie de mes angoisses, notamment du début, parce que voilà, je suis quelqu'un de très angoissé de toute façon, mais au tout début, quand on se lance, je me suis dit, bon, que vont penser les élèves quand ils vont voir ça? Est-ce que mon autorité va pas en pâtir? Est-ce qu'ils vont toujours me prendre au sérieux? Parce qu'il y a des vidéos où voilà, je me mets clairement en scène, et donc voilà, c'est pas du tout l'image du prof classique qu'on peut avoir.
Oui, oui.
Et finalement, ben non, les retours sont vraiment très 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 positifs, y compris de la part des parents d'élèves, y compris de la part de mon chef d'établissement, y compris de la part de l'inspection. Donc voilà, j'ai été rassuré à tous les niveaux, et les élèves, franchement, je pense qu'ils s'en fichent. Pour 99% d'entre eux, ils n'en ont rien à faire de ce que je fais sur YouTube, et c'est tant mieux finalement. C'est tant mieux parce que les vidéos sont pas pour eux. Voilà. Donc, il y a vraiment peut-être l'aspect curiosité qui va jouer au début. Ils vont peut-être regarder une ou deux vidéos comme ça parce que ça fait bizarre de voir son prof, voilà, sur YouTube. Mais quand ils se rendent compte que les vidéos ne sont pas faites pour eux, elles ne sont pas conçues pour eux, finalement, bah voilà, quoi, ils passent à autre chose, et puis c'est aussi bien comme ça. Mais les retours n'ont été que positifs.
Et vos collègues, alors, dans votre établissement, est-ce qu'ils regardent vos productions? Je sais que c'est une question difficile, mais est-ce que vous arrivez à leur communiquer ce bonheur d'être prof?
C'est différent. Non, le communiquer le bonheur d'être prof, franchement, je pense pas du tout.
Non, c'est un peu une question pour...
Ouais.
Bon, vous avez compris.
Oui, non, je pense pas. Mais disons que... Je partage les vidéos qui franchement peuvent être utiles. Voilà. Je découvre un outil, je partage la vidéo, je leur dis voilà, j'ai découvert cet outil-là. Si ça vous intéresse, regardez la vidéo tuto que j'ai faite. Voilà. Et ça s'arrête là. Vraiment, ça s'arrête là. Je ne me mets pas plus en avant que ça. Je pense que certains collègues ne savent pas que j'ai une chaîne YouTube. Vraiment.
Ouais.
Ça c'est sûr. Et ceux à qui j'en parle sont des collègues en qui j'ai confiance.
Ouais,
oui. Et voilà, je n'hésite pas à partager ça avec eux. Mais sinon c'est vraiment quelque chose qui est à part. Et bon, là on a quand même on a un projet commun où on est 11 profs, et voilà, ces 11 profs là en priorité, c'est avec eux que je vais partager les outils que j'ai découverts, ce genre de choses là.
D'accord.
Mais c'est vrai que j'aime bien cloisonner les choses. Donc il y a le côté YouTube est une entité à part.
Ouais.
Ça m'ouvre des portes, notamment cette interview, quoi. Ça, voilà, ça me permet de rencontrer plein de personnes très intéressantes. Mais ce qui se passe au collège, au sein de mon collège, ça reste quelque chose d'à part, avec les relations que je peux avoir en vrai avec les collègues. C'est encore autre chose.
On peut vous lire également sur le site du collectif Patchwork. Vous pouvez nous présenter ce projet?
Oui, Patchwork à l'origine a été... créé par Sébastien Franck, qui souhaitait rassembler autour de lui des professeurs issus d'horizons très très différents pour que l'on crée ensemble un collectif qui échange des idées de manière bienveillante et en toute liberté. À l'origine, c'était ça. Et donc, il a rassemblé autour de lui différentes personnes de confiance, chacune avec ses spécificités. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne, je m'occupe du site internet. Voilà. Et l'idée derrière Patchwork, comme son nom l'indique, c'est de rassembler vraiment des gens d'horizons très différents. On a des professeurs d'université, de collège, de lycée, d'école primaire, des professeurs des écoles aussi. Et on a un ou deux chercheurs en éducation également. Donc voilà, des gens très différents, mais qui ont cette passion commune pour l'éducation et qui souhaitent donc échanger, encore une fois, dans une atmosphère bienveillante et, je dirais, sécurisante. Quand on regarde ce qui se passe sur Twitter quelquefois, le partage d'informations ou le partage de pratiques sur Twitter peut très vite tourner au règlement de compte, finalement.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, l'idée, c'était de partager ça ensemble. L'idée aussi, c'est de se réunir en vrai, ne pas rester qu'au virtuel, essayer de se réunir en vrai pour faire des réunions et échanger en cours pendant une ou deux journées, voilà, en vrai. En l'occurrence, il y a un an, on devait se retrouver, mais la pandémie a fait que voilà, les choses ont dû être annulées.
Oui.
Voilà. Mais voilà, c'est quelque chose qui a là aussi créer beaucoup de rencontres et des rencontres qui font progresser et qui font grandir professionnellement, et c'est voilà, c'est vraiment très intéressant et enrichissant.
Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison ?
Je suis très fan de séries, voilà. Et je pense que la dernière fois que j'ai vraiment ri aux larmes, c'était en regardant de manière très banale une série télé. Voilà, ça doit être Modern Family, une scène. Voilà, comme il y en a dans cette série, complètement décalée et outrancière quelquefois, et ça me voilà, c'est le genre de choses qui me font vraiment rire, voilà. Et si je peux conseiller une bande dessinée, vraiment une bande dessinée qui m'a fait éclater de rire là dernièrement, c'est Il ne faut pas prendre les cons pour des gens.
Ah, d'accord.
Voilà, j'avais envie de dire l'expression inverse. Donc, c'est très, 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 très drôle, très intelligent. Voilà, je conseille cette bande dessinée, si je peux.
Très bien. Ah, oui, bien sûr. On est avide de conseils quand on rencontre des profs heureux en particulier.
Prof, etc.
Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel ?
On est encore dans la question du préféré. Hein.
Ouais, bien sûr.
Et ouais, c'est vraiment le genre de truc. Je crois que un truc très 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 simple, c'est me vautrer dans le canapé en rentrant du boulot. Voilà, je pose le sac, j'ouvre la porte, je pose le sac et je me jette dans le canapé. Ça, c'est un moment de bonheur intense. Voilà. Et tous les jours, ça fait du bien. D'avoir le sentiment du travail accompli, on arrive et hop, on se détend.
Au départ, cette question, je l'avais pensée pour recueillir des sentiments positifs, si vous voulez. Et finalement, c'est très intéressant parce que se sont dégagés deux moments qui sont vraiment communs à tous mes invités quasiment, c'est toujours, la réponse se situe toujours soit le matin, à l'ouverture de la journée. Là, on a des gens qui soulignent le côté de toutes les possibilités qui s'offrent à elles en début de journée. Et puis, on a d'autres personnes comme vous qui soulignent la fin de journée comme quelque chose d'accompli, d'abouti, et qui les rend, qui les apaise, qui leur apporte une certaine sérénité. Donc finalement, cette question qui paraissait un peu anodine révèle finalement pas mal de choses sur les gens.
C'est vrai.
quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous ?
La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le partage.
Ok.
Voilà, le partage au quotidien. Enfin, moi envers les élèves entre eux, le partage. Ce que je fais sur Internet, c'est vraiment sur tous les réseaux sociaux, c'est cette idée-là qui me pousse en fait et qui fait que cette chaîne continue. C'est l'idée de voilà toujours partager ce que je fais, ce que je connais, l'expérience, ce que j'ai acquise, et même les choses, même les échecs, même les choses peut-être moins positives pour un prof heureux, mais voilà, histoire de partager au maximum dans le but d'apprendre quelque chose, d'enseigner quelque chose, je sais pas, mais ouais, ce serait vraiment peut-être une valeur fondatrice de mon travail.
Prof, etc.
Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier ?
Je sais pas si je ne dirais pas que ça me rendrait fier, mais parce que fier, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais disons que le sens de l'humour, c'est quelque chose qui me rend énormément service tout le temps pour désamorcer des situations potentiellement conflictuelles qui peut y avoir au sein des classes ou dans la vie de tous les jours. Voilà, l'humour, c'est certains parlent de système de survie quelque part, mais ça permet vraiment de dédramatiser les choses, d'avancer, de rompre le quotidien, de faire un petit instant de surprise. J'aime bien dire des énormités lorsqu'il y a de grands moments de silence dans des réunions un petit peu sérieuses, histoire de détendre l'atmosphère et puis de repartir sur une bonne base. Et c'est presque plus fort que moi. Je suis littéralement obligé de me mordre les lèvres quelquefois pour ne pas dire ce qui me vient à l'esprit vraiment.
Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui ?
Ouais, je dirais Stephen King.
Ouais.
Parce que c'est un professionnel de l'écriture qui écrit énormément et voilà, être dans sa tête pour savoir ce qui s'y passe, comment est-ce qu'il conçoit l'écriture, cette relation qu'il a presque organique qu'il a avec l'écriture et son instrument de travail, son ordinateur, etc. Voilà, sa manière de travailler, parce qu'il le fait pendant plusieurs heures chaque jour, de manière très intense, très longue, comme le font les professionnels américains. Et c'est vraiment quelque chose que voilà, j'aimerais voir, être témoin de ça, mais également ressentir ce qui se passe dans son corps lorsqu'il crée. Voilà. Qu'est-ce qu'il ressent, les sentiments de ses personnages, voilà, vraiment organiquement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui pour créer les œuvres qu'il arrive à qui pour créer des œuvres qui arrivent à nous faire peur, quoi.
Ouais.
Voilà, donc c'est, je dirais ça, voilà, la première chose qui me vient à l'esprit, je réfléchis pas trop, c'est lui qui sort.
Vous l'évoquiez déjà un petit peu tout à l'heure. Comment définissez-vous le succès ?
Oh, le succès, ça dépend évidemment du domaine, mais je crois que c'est quand on arrive à toucher les autres, à partager, à créer du lien avec quelqu'un d'autre. Voilà, je dirais que la chaîne a du succès parce que j'arrive à créer du lien avec des gens. Je le vois par les commentaires que je reçois, par les messages que je reçois, messages privés ou autres.
Ouais.
Voilà, c'est le succès pour moi, il se situe là, par la capacité à créer du lien avec des gens. Sur la chaîne anglophone où j'ai beaucoup moins d'abonnés, hein, ça doit être, bon, même si ça peut paraître important, on est dans les 600, j'ai réussi à créer des relations qui durent toujours aujourd'hui avec des collègues australiens notamment et américains. Enfin voilà, des choses qui peuvent paraître complètement improbables quand on est prof à Agde, mais grâce à Internet, voilà, on arrive à créer du lien, ouais,
et briser les frontières.
Ouais. C'est ça, avec par rapport même avec des gens qui sont de l'autre côté de la terre littéralement. Et, ouais. Et pour moi, ouais, ça c'est une forme de succès pour moi. Ouais. Et avec eux, on a mené des projets, on continue de mener des projets. Et voilà, ça c'est une source de fierté quand même, c'est d'avoir réussi cela.
Alors, on arrive malheureusement déjà à la fin de cette interview, mais j'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les deux prochaines années?
Si je pouvais déjà continuer à légitimement pouvoir appeler ma chaîne Un Prof Heureux, ce serait déjà une belle victoire. Franchement, j'ai aussi du mal à me projeter dans l'avenir comme ça. C'est plus au quotidien que les choses vont petit à petit. Donc, ça va être plus trouver du bonheur ou être heureux quotidiennement. Voilà, trouver des moments de bonheur dans la journée, au quotidien et jusqu'à la fin de ma vie, ce serait bien. Voilà. Hein, c'est à la fois humble comme objectif et en même temps un peu vertigineux d'espérer trouver chaque jour un petit moment de bonheur. Mais ouais, je crois que si je devais me souhaiter quelque chose, me souhaiter ça, ce serait pas mal.
Merci beaucoup Nicolas d'avoir accepté mon invitation et merci aussi de nous rendre heureux en visionnant vos vidéos.
Oui, mais merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour cette interview.
Je mettrai le lien vers votre chaîne Un Prof Heureux ainsi que vers le site du collectif Patchwork.
Ok, merci.
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à écouter les épisodes de Prof, etc. Et je voudrais vraiment vous remercier pour votre fidélité. Ça m'encourage à envisager une saison 2 sur laquelle je commence doucement à travailler. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Podcast depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous avez envie de partager vous aussi votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi !